Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin, de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreuses et nombreux ce soir. Ce soir, on reçoit Mara Montanaro pour un livre qui est paru récemment aux éditions Divergence. C'est Les théories féministes voyageuses, sous-titre Internationalisme et coalition depuis les luttes latino-américaines. Mara Montanaro, vous êtes philosophe féministe et militante féministe. On aura l'occasion de revenir sur ça. Vous êtes aussi directrice de programme au Collège international de philosophie. La rencontre sera modérée par Mathieu Renaud. Bonsoir, merci aussi d'être là ce soir. Vous êtes professeur de philosophie à l'université du Mirail. La rencontre est amplifiée par micro, elle est par ailleurs enregistrée. C'est ensuite diffusé sur Canal Sud. Si vous voulez participer mais pas être enregistré, vous pouvez nous le signifier, il n'y aura aucun problème. Merci beaucoup et bonne soirée à toutes.
Bonsoir, merci, merci à vous toutes et tous d'être là. Ça va avec les micros? Oui, oui. Merci, merci à la librairie à Terra Nova qui nous accueille et notamment Baptiste qui m'a invité il y a là 3 mois. Merci également à Mathieu Renaud avec qui j'ai la joie de discuter aujourd'hui. Si l'écriture est un processus, un travail très très solitaire, un livre ne l'est pas. Un livre est le résultat d'un travail, collectif, des 1000 relectures, révisions et échanges. Et ces livres portent aussi la joie de la complicité qui s'est créée entre moi et mes éditeurs pendant tous les mois des relectures. Et je crois que cela revient au fait que l'écriture nous emporte tant qu'elle est militante et engagée. Reprenant la formulation d'Edouard Said en Travelling Theory, le fil directeur est celui d'une philosophie inscrite dans la géopolitique des savoirs féministes, qui pense à partir des corps frontières appelés corps territoires, dans les luttes et les théories d'Amérique latine à Biayala. L'objectif étant de penser philosophiquement l'internationalisme, les coalitions possibles dans une géographie discontinue du Sud global. L'on pourrait dire que ce qui inquiète mon écriture philosophique est à la fois la division internationale du sujet féministe et la recomposition d'un internationalisme des luttes qui ne s'opère pas depuis un centre ontologique, hégémonique, fictionnel et fantasmé, celui des femmes comme entité indivisée et universelle, abstrait, bourgeois, mais depuis une compréhension intersectionnelle située en Amérique latine qui couple à la fois une critique du capitalisme extractiviste, aussi bien au niveau de l'extraction territoriale des matières premières, qu'à l'échelle du travail reproductif, et aussi une critique des économies de la mort, appréhendée dans une dimension également sexuelle de nécropolitique. Je me réfère notamment à toute la question des féminicides. Cette attention portée à la fois à l'échelle phénoménologique, sous ce qui fait encore, sous sa fabrique ordinaire, et l'échelle internationale des compositions des géométries plurielles, qui constituent les mouvements féministes, marque l'un des traits caractéristiques de ma pensée. En effet, mon interrogation première, celle qui prévalait lors de mon premier livre, qui portait sur les cheminements intellectuels de la philosophe et féministe Françoise Collin, était centrée sur les rapports entre les corps du texte littéraire et philosophique et la praxis insurrectionnelle au cœur des collectifs des femmes. Qu'est-ce que c'est que de la matérialité des corps insurgés pouvait se retrouver transcrit ou plutôt traduit dans la chair du texte littéraire ou philosophique? Mais ce niveau de la singularité trouvait déjà son expression dirigée la plus importante dans la compagnie d'autres corps débuts. À la solitude de l'écriture répondait la foule des corps faisant barrage. Maintenant, dans cette théorie voyageuse, il faudrait alors imaginer des corps, des corps dissidentes, résistantes, qui deviennent des corps territoires, un corps collectif qui envahit les rues par sa présence, sa puissance, qui nous dit « nous sommes encore là, nous sommes les petites filles, des sorcières que vous n'avez pas pu brûler ». Le féminisme pour moi c'est cela, cesser d'avoir peur, un cri d'entraille contre toute injustice, flâner sans code et sans horaire, inventant par chaque rapport ses rites propres, supprimer les entraves, les corps qui se rébiffent, un corps collectif, un corps territoire, désirant, jouissante et joyeux. En somme, la puissance plutôt que les pouvoirs, pour le dire avec Véronica, avec les mots de Véronica Gago, avec qui je dialogue tout au long du livre. Une révolution permanente qui signifie à la fois réinventer la vie et réchanter les mondes, pour reprendre les titres de Silvia Federici, également très présent dans ses livres. Or, avant de commencer ces voyages avec vous, il me semble aussi important de me positionner. Comme toute recherche, mais je dirais comme la vie elle-même, il s'agit de procéder par prolongement, accumulation, rupture, mais aussi et surtout par déplacement et décentrement. Or, et en même temps, l'enjeu est aussi pour moi de m'efforcer de combler l'écart entre l'expérience vécue et la théorie. Puisque je conçois la philosophie féministe comme une théorie pratique et une pratique théorique, une philosophie qui s'essaie matériellement située dans le monde. Problématiser et interroger la part subjective du travail de recherche, au lieu de la refouler, signifie affirmer les choix d'un positionnement, qui est une méthode, une pratique théorique ouvertement féministe. Il a été, il est toujours question pour moi, dans la réflexion théorique et dans la pratique militante, d'être fidèle au mot des pouvoirs. Les femmes divisées, déchirées, désavantagées, pour elles, plus que pour les hommes, il existe des enjeux, des victoires et des défaites. Elles m'intéressent, et je mets, à travers elles, à voir sous les mondes une prise limitée, mais solide, plutôt que de flotter dans l'universel. Je tiens à préciser bien évidemment que j'utilise le terme « femme » pour nommer les sujets politiques transféministes, en incluant tous les corps dissidentes et les minorités des genres et sexuelles. Lorsque j'utilise le terme « femme », je ne me réfère jamais à une catégorie supposée immuable, ni à une essence éternelle. Les corps doivent être considérés, selon moi, comme des processus qui sont constitués par des dispositifs d'affect, des désirs et des relations et qui s'inventent en permanence. Les concepts d'éveil empruntés à la philosophe Sarah Ahmed peuvent résumer les fils conducteurs de ses livres, mais aussi de toutes mes recherches. Car il n'est pas facile de se rappeler comment on est devenu féministe, ou pour mieux les dire, de se souvenir du temps où on n'était pas féministe. Deux remarques avant de poursuivre. La première, si la notion de philosophie féministe ou singulière est pertinente en tant qu'espace d'analyse critique du corpus philosophique traditionnel et eurocentrique, on ne saurait parler d'une philosophie féministe ou singulière, dans la mesure où elle s'est nourrie des différentes positions, théorisations, touchant aussi bien à l'étude des dispositifs biologiques, historiques, sociaux, qui ont naturalisé et donc justifié l'ordre patriarcal, qu'aux méthodes et aux critères de légitimation par lesquels la philosophie, ou mieux, les corpus philosophiques traditionnels eurocentriques s'est construit. Donc, si j'utilise dans les livres les singulières, c'est en toute conscience de cette hétérogénéité théorique. Et la même chose pour les féminismes. Il n'existe pas un féminisme singulière, il s'est nourri des positions différentes, tant du point de vue des théories que des stratégies politiques adoptées pour transformer les mondes communs. Donc, si j'utilise les singulières, encore une fois, c'est en toute conscience de cette hétérogénéité théorique, de cette multitude des pratiques des luttes, stratégies de résistance et processus de subjectivation. Ainsi, tout en reconnaissant l'importance des travaux visant à décoloniser le féminisme, défini comme hégémonique, majoritaire et dominante, ma démarche est différente. Partant du constat de la pluralité des théories et pratiques féministes, ma perspective théorique et politique vise à éviter de faire du féminisme aussi occidental un bloc monolithique et tenter plutôt de déchiffrer et déconstruire les usages abusivement universalistes des discours et récits féministes dominantes. Il s'agit non seulement de rendre visibles et lisibles ces discours contre-hégémoniques des enjeux de décolonisation qui portent notamment les féminismes latino-américains, mais aussi d'interroger les récits coloniaux qui, refoulés, persistent dans les couches englouties de nos discours. De son côté, les féminismes dits décoloniales, concept proposé par la philosophe argentine Maria Lugones, est géopolitiquement enraciné en Amérique latine et ses sources incluent les black feminisms, les féminismes chicanes, autonomes et populaires. Tous ces féminismes-là dénoncent l'universalisation biaisée du concept femme. Or, tout l'effort et les défis d'une philosophie féministe telle que je la conçois, critique, subversive et décoloniale, consistent selon moi à montrer que l'histoire aurait pu être écrite différemment. En d'autres termes, que l'histoire patriarcale de la philosophie n'est ni inévitable ni nécessaire. Cela étant éclairé, je fais le choix, qui est aussi un geste politique, de dialoguer principalement avec des femmes. Derrière ces choix, il y a la nécessité, selon moi, vitale, sauf avec des hommes comme Mathieu Renaud, avec qui j'ai écrit et je collabore. Derrière ces choix, il y a la nécessité, selon moi, vitale, de produire constamment nos constellations philosophiques, littéraires et artistiques. L'objectif étant celui de transformer les présents et d'inventer un futur dans lequel se reconnaître. Ce qui revient à voir ou à réécrire aussi un passé dans lequel pouvoir s'inscrire. Faire de la philosophie féministe est une question de méthode, mais aussi une position politique. Cette position politique constitue diriger les fils rouges de toutes mes recherches. Il y a là un enjeu et un défi. Démontrer à quel point la philosophie peut être redéfinie par les théories féministes, tant dans ses modes de réflexion que de fabrication de ses concepts, au fur et à mesure que la philosophie féministe force la philosophie à repenser ses méthodes, ses objets conceptuels et à mettre au jour ses sans-pensées. Inscrire mes recherches dans la philosophie féministe signifie décoloniser la philosophie elle-même, dans ses prétentions comme discipline, son point de vue universel et donc ses prémices phallologocentriques. Ce que les féminismes font à la philosophie est de l'ordre du déplacement, mais surtout de la subversion. Ou plutôt, les dérèglements induits par les féminismes à la philosophie entraînent la transformation de celle-ci. Les notions donc des critiques, des subversions et des transformations sont essentielles dans ces livres. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer ce qui manque, encore moins de compléter une élaboration du monde, mais de proposer une autre vision du monde possible. C'est pour cela que ce livre est aussi un appel à la révolte. C'est dans cette perspective que j'essaie de faire une lecture marxiste des expériences des luttes féministes, notamment celles provenant d'Amérique latine, afin de révéler comment, à partir des expériences des luttes concrètes, il est possible d'élaborer une analyse théorico-politique en traversant des espaces et des temporalités différentes. En d'autres mots, il s'agit d'une analyse d'un cadre d'intelligibilité matérialisé dans des expériences concrètes. Notamment, je pars avec les concepts en problématisant « c'est nous les femmes », les sujets des luttes féministes. Je montre comment, pour utiliser ces « nous », en évitant de l'essentialiser, il faudra les considérer toujours comme un véritable champ de tension, une production, une construction toujours mouvant et jamais figée. On pourrait parler d'un devenir permanent du sujet féministe, d'un sujet en preview, pour le dire avec les mots de la féministe radicale italienne Carla Lonzi. Les sujets féministes tels que je les conçois ne sauraient fonder ces revendications sur un niveau présumé universel et général, et dans ces comptants, penser aux problèmes suscités par chaque système d'oppression. Les raisonnements et la dynamique sont plutôt inverses. Il s'agit de partir toujours de la spécificité des conditions matérielles des vies, des expériences singulières, pour construire les communs des luttes. Ce qui constitue les communs de ces sujets n'est pas une nature, comme on vient de le dire, une identité féminine essentialisée, mais la prise en compte des différences irréductibles et non homogénéisables. Ce n'est qu'en arrêtant de refouler ces différences, même si elles sont conflictuelles, que nous pouvons produire des coalitions entre les différentes luttes qui, en interrompant les mécanismes de capture et d'oppression, même si de manière provisoire, rendent possibles les nouvelles pratiques d'autodétermination et de libération. Mon angle méthodologique, comme je le disais au début, s'inscrit dans la notion des théories voyageuses. Qu'est-ce que signifie théorie voyageuse? Il s'agit de remettre en question l'espace traversé par les tensions entre global et local et définir les conditions théorico-politiques qui rendent possibles ces circulations des savoirs, transferts d'idées, déplacements conceptuels et politiques. Ce qui peut faire de ces théories, de ces pensées nées d'expériences historiques et géographiques situées. Non, ça me permet de boire. Des théories féministes voyageuses. Les théories voyageuses révèlent alors la réappropriation et la résignification qui se produisent dans les transferts lorsque, au cours de leur circulation, les concepts sont renouvelés, réorientés, réactualisés et entrent alors dans des nouvelles configurations et tournures de sens. En lisant les livres, vous allez les voir avec les concepts des grèves, des reproductions et travail notamment. Car, la question que je me suis posée tout au long de l'écriture. Les concepts et les catégories que nous utilisons habituellement portent tous les poids de la philosophie, de la pensée, de l'histoire politique eurocentrique. Appliquer ces mêmes catégories et concepts pour réfléchir sur les expériences et les théories féministes latino-américaines était à la fois inévitable et inadéquate. Afin d'éviter les pièges de la colonisation discursive et de la violence épistémique, je m'efforce alors constamment de problématiser les conditions de production des connaissances, d'analyser les déplacements conceptuels, les retraductions, les enjeux à la fois épistémologiques et politiques qui en découlent. Et en même temps, de comprendre comment ces déplacements théorico-politiques impliquent aussi tout un travail de déconstruction et de reconfiguration de nos cadres conceptuels et symboliques, nous permettant de repenser nos expériences de lutte. J'ai fait donc le choix d'analyser une série de concepts, les sujets du féminisme, c'est nous les femmes, la grève générale féministe, les coalitions Alliance féministe internationale, les travails reproductifs et l'idée force des corps-territoires dans les contextes des théories et mouvements féministes latino-américaines contemporaines. Pour montrer comment les concepts varient dans leur fonctionnement topologique ou géographique selon leur ancrage dans des espaces historiquement marqués par la colonialité et les inégalités des classes et segmentées de manière raciale. Je commence alors par interroger cette catégorie des femmes, surtout dans sa dimension performative pronominale, nous les femmes, compris à la fois comme autodéfinition et processus en cours d'élaboration, nécessairement inachevé car constitutionnellement disputé et qu'il faut inventer à chaque moment. En prenant donc ces points de départ sans les résoudre, je me demande que reste-t-il de cette énonciation, nous les femmes, lorsqu'elle est critiquée par des féministes décoloniales et postcoloniales comme Maria Lugones, Gloria Anzaldúa, Gayatri Chakrabarti Spivak et Chandra Mohanty. Une place particulière est occupée par les féministes marxistes italiennes, notamment par les voix de Silvia Federici, Maria Rosa Della Costa, Leopoldina Fortunati et Alicia Del Re. En reprenant leur analyse sur les travaux reproductifs et notamment sur la campagne Un salaire pour les travaux domestiques, j'ai construit donc une constellation qui voyage des années 70 en Italie jusqu'aux expériences du féminisme communautaire en Bolivie, au Guatemala et au mouvement Ni Una Menos en Argentine. Ces expériences mais semble être les luttes les plus décisives pour construire un internationalisme féministe. D'abord à travers la notion des corps-territoires, mais aussi par la manière dont la grève et les luttes anti-extractivistes recréent des liens avec l'écoféminisme. Une fois encore, il s'agit de mettre en évidence des opérations des pensées qui se nourrissent, s'enracinent dans des luttes concrètes. Reprenant Angela Davis sur la nécessité d'une intersectionnalité des luttes plutôt que d'identité, il s'agit de prendre acte aussi de l'importance et de la problématisation toujours de la race et de la colonialité dans des processus d'expropriation capitaliste et patriarcale. Un autre concept, comme je disais, que je traite dans les livres est la reconceptualisation de l'outil de la grève en clé féministe, notamment à partir du dialogue avec Veronica Gago et Silvia Federici. La grève féministe est alors pensée à partir de sa temporalisation, non pas comme un événement qui interrompt, ni comme une inauguration d'une nouvelle temporalité dans une chronotopie prédéfinie, comme celle de l'usine ou du foyer, mais plutôt comme un opérateur à la fois des rassemblements, c'est-à-dire comme organisation autonome et mode de subjectivation au sein d'une communauté, d'un commun des luttes, qui brise la monotonie du temps domestique social de la reproduction et la sérialité morbide des féminicides. Mais aussi de voir comme elle n'est pas une interruption, mais elle est plutôt la convocation d'une durée qui déborde, contraint l'accélération capitaliste. La grève féministe est aussi l'invention d'une nouvelle spatialité qui fait que les femmes se retrouvent, se cherchent entre elles pour faire front commun face à ce qui tente de les réduire au silence et au ressentiment de la rage accumulée. La grève féministe produit un excès d'énergie là où il y a un excès de contrôle, un excès d'exploitation. Appelle à une interruption qui s'installe comme la possibilité d'une autre vie, visant une transformation radicale de l'existante. Et aussi, en contestant une temporalité homogène, enracinée dans les continuums de l'oppression et de l'exploitation, pour en inventer une autre. En ce sens, la grève exprime un mode de subjectivation politique, c'est-à-dire une manière de franchir les frontières au-delà des limites du possible, tout en s'inscrivant dans la mémoire des luttes historiques des travailleuses et travailleurs dans les rébellions et sabotages. Mais comment un cri collectif contre la violence masculine devient-il une grève féministe transnationale? Qu'est-ce que c'est les féminicides ont à voir avec une grève? C'est précisément dans cette dislocation apparente, dans cet lien inhabituel, qu'on peut voir la construction politique qui a transformé Ni Una Menos en impulsion à la complicité internationale dans les géographies les plus diverses, pour faire un diagnostic de la violence capitaliste, patriarcale et coloniale, ainsi que de la précarité et du différentiel d'exploitation, comme l'appelle Veronica Gago, du travail féminin et féminisé. Les points essentiels alors des théories féministes voyageuses consistent dans l'effet de forcer les limites des concepts que nous utilisons face à des expériences qui les mettent radicalement en question, en contestant notamment les caractères universels. En effet, les déplacements, les décentrements, j'y reviens, sont les concepts qui me semblent vraiment clés et centrales dans toute l'écriture et dans toute ma pensée. La question qui me hante était la suivante. Comment est-il possible de tracer des voies de libération à partir d'une situation d'oppression ancrée dans la colonialité ? Puis répondre, tout au long du livre, je retiens ces doubles vérités. D'une part, une situation historique peut limiter la liberté d'un individu ou d'un groupe. D'autre part, elle ne peut jamais l'anéantir. La liberté n'est pas un fait, mais un acte de libération. Cet acte, qui ne peut pas faire l'économie du donné, mais qui les transcende en permanence, doit être accompli par chacune, tout en sachant qu'il n'est opératoire qu'à condition d'être soutenu collectivement. Cette libération, qui est un processus jamais en acquis, ne peut être que collective. Dans le lexique de Judith Butler, cette libération collective pourrait se traduire dans la nécessité des coalitions, celles qu'elle appelle des cohabitations des différences. Ces coalitions stratégiques, insolites et alternatives peuvent contester l'homogénéité du cours capitaliste et les continuums de l'oppression en produisant et en proposant un autre discours qui défie la logique patriarcale coloniale capitaliste. Là, on est à la fin. Non, vous pouvez les laisser par terre. Mon hypothèse est ce que Butler théorise dans son ouvrage Rassemblement s'est traduit concrètement dans les mouvements féministes latino-américains et en particulier dans la grève féministe. Et ces coalitions sont puissantes parce qu'elles sont joyeuses. Comme nous l'enseigne Deleuze, tout pouvoir nécessite des corps tristes. Il a besoin de la tristesse pour mieux exercer sa domination. La joie qui affecte, augmente et intensifie la puissance féministe ouvre, au contraire, comme le soutient Veronica Gago, à d'autres géographies existentielles, construisant des nouvelles pratiques affectives et politiques. Cette connexion entre la puissance féministe et la joie militante nous montre qu'un corps territoire n'est pas seulement un corps exploité, opprimé, déchiré, mais aussi et surtout un corps résistante, qui peut être irrigué par cette puissance joyeuse, car collective. Cette convergence entre la puissance féministe et la joie militante, que j'essaie de tisser tout au long du livre, nous montre alors de quoi nous sommes capables. Dans ces désirs de tout changer, de refuser la victimisation, dans cette force collective qui produit les communs de nos luttes, un commun des différences, des singularités, une pensée non seulement positive, mais affirmative, que j'ai retrouvée dans les mouvements féministes latino-américains. De l'Argentine au Chili, de la Bolivie au Brésil, du Paraguay à l'Honduras, du Salvador au Guatemala, de l'Équateur au Mexique, du Pérou à l'Uruguay, je montre comment ces femmes construisent des nouvelles formes de réexistence qui rejettent la logique du capitalisme patriarcal, luttent pour une société fondée sur la solidarité et la défense, en reconnaissant notre interdépendance et surtout en remettant la joie au centre de nos luttes. La joie est une intensification de la vie. Une façon de travailler les réels, de les fracturer par éclats, une manière de déranger, de troubler les continuums de l'oppression. En effet, c'est dans les corps des femmes, déchirées et brutalisées, mais en même temps révoltées, dissidentes, adoptées et adoptables, qui se situent les chances d'une transformation sociale radicale. Car, comme le dit Françoise Collin, qui m'accompagne avec sa présence astrale, l'action révolutionnaire, telle que les femmes la conçoivent, n'est jamais réductible à un acquis, ni un menu des revendications ponctuelles. C'est une insurrection permanente. Merci.
Merci beaucoup, Mara. Je tiens à te remercier, à remercier Baptiste aussi pour cette invitation qui m'honore d'autant plus qu'il fallait une certaine dose de confiance et d'amitié, je pense, pour me convier à discuter des problématiques sur lesquelles, quel que soit l'intérêt, et il est grand que j'y porte, mes connaissances restent fragmentaires. Elles le sont peut-être un peu moins maintenant après la lecture du très beau livre de Mara, qui m'a permis d'affiner ma compréhension des thèses d'une constellation d'autrices et de pensées féministes, et de saisir comment elles s'articulent, dialoguent, circulent, et on pourrait dire font monde ensemble, sans faire paradigme, c'est-à-dire sans se clôturer dans un dogme quelconque, ce qui a tendance à me faire fuir, mais ce n'est pas du tout l'impression que donne le livre. Ce que montre admirablement Mara, me semble-t-il, c'est que la condition tu l'as dit de toute manière, pour pouvoir penser le féminisme au singulier, de le penser au pluriel, mais aussi peut-être, et éventuellement tu ne seras pas d'accord, mais c'est ce que, bon, voilà, tu pourrais discuter, peut-être aussi l'inverse. On peut le penser au pluriel que parce que d'une certaine manière, on le pense toujours au singulier. Mmh. Et selon un mouvement à double sens, de va-et-vient permanent, qui m'a paru être à la fois la méthode et l'enjeu du premier chapitre du livre, Nous les femmes. Alors je ne vais pas énumérer tout ce qui m'a marqué dans le livre, tout ce qui m'a instruit surtout. Et je me contenterai de mentionner, bon, de manière quasi arbitraire, la déconstruction dans le premier chapitre, je crois, de l'idée de sororité globale dont tu as parlé, les réflexions sur la reproduction comme critique du travail en général, ou encore les développements sur l'acquerpamiento, une notion dont j'ignorais jusqu'à l'existence. J'ai également beaucoup apprécié, c'est vers la fin du livre, la cartographie des luttes féministes en Amérique latine autour du corps territoire, ne serait-ce que, enfin pour différentes raisons, mais ne serait-ce que parce qu'elle démontre que les victoires sont possibles, une chose dont on peut commencer à douter quand on a participé de près ou de plus loin aux mobilisations sociales des dernières années en France et à l'université en particulier. Bref, je crains que mon propos ne rende pas vraiment justice à la richesse de tes analyses. Tu as trop de longueur d'avance sur moi sur ces sujets, et si mes remarques peut-être vont te sembler assez périphériques par rapport aux préoccupations qui t'animaient dans la conception du livre, mais vu qu'on m'y invite, je voudrais faire part des échos qu'ont suscité en moi certains des arguments que tu as développés, et ça à travers 5 courtes séries de remarques, et si je suis trop long, je peux enlever la dernière, et de questions autour des thèmes suivants. La traduction, dans un premier temps, on était en voyageuse, hein. La reproduction ensuite, le patriarcat et le matriarcat, le rapport nature et terre, et enfin les temporalités. Première série de remarques, donc de nature épistémologique. Dans ton introduction, tu soulignes la nécessité de penser le ou les féminismes en tant que théorie voyageuse, en reprenant la belle formule d'Edward Said, comme tu l'as dit, c'est-à-dire comme se constituant à travers des processus ininterrompus de déplacement indissociablement géographique, théorique et pratique, toujours synonyme de traduction épistémique et politique. Ce qui conduit nécessairement, selon toi, à rejeter tout point de vue universel, en tant que le point de vue universel aurait toujours été un point de vue à la fois phallo ou phallogocentrique et un point de vue eurocentrique. Alors je me demande toutefois si on ne pourrait pas appliquer ici la différence qu'a établie Maurice Merleau-Ponty entre un universel de surplomb, un universel vertical, autodéclaré objectif, et un universel latéral, un universel horizontal, on pourrait dire, qui est le produit jamais achevé du tissage entre des expériences toujours singulières. Je dis ça parce que c'est ce que le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne a précisément rebaptisé dans une perspective postcoloniale un universel de traduction, un universel voyageur. Alors loin de moi l'idée de vouloir sauver l'universel, c'est une notion que je m'attache généralement à éviter, moins à critiquer finalement qu'à éviter parce que je la trouve assez piégeuse. Et je crois par ailleurs qu'il est tout aussi important de problématiser les limites de la traductibilité, c'est-à-dire de la pensée, c'est-à-dire de l'existence dans la pensée comme dans les luttes, d'intraduisible, tout simplement. Dans sa préface, Véronique Agago dit de ton livre qu'il vient illustrer la thèse très connue d'Audrey Lorde, qu'elle reformule ainsi, je la cite, « La philosophie universelle, entre parenthèses, du maître, ne peut être démantelée avec les outils du maître. » Mais il me semble, malgré tout, qu'à partir du moment où on conçoit les choses en termes de traduction, cette affirmation prend nécessairement la forme d'une interrogation, qui ne peut avoir de réponse que circonstancielle. Car s'il est évident, et je crois que c'est ce que montre aussi ton livre et ton propre rapport à la philosophie, il me semble, que s'approprier tel quel les outils du maître, en l'occurrence de l'homme, c'est se condamner à suivre la voie tracée par lui, la question reste de savoir dans quelle mesure et jusqu'à quel point ces outils peuvent être encore transformés, détournés des fins qui leur avaient été initialement assignées, et finalement retournés contre leurs auteurs. Il me semble que c'est ce même problème que tu poses quand tu dis que l'usage des catégories et concepts philosophiques, marqués qu'ils sont par l'histoire patriarcale, coloniale, raciale, cet usage est à la fois pour la pensée féministe, celle que tu pratiques en tout cas, inévitable et inadéquat. Et tu l'as répété cette formule à l'instant. Inévitable et inadéquat, ce qui serait un paradoxe constitutif. Et tu le sais peut-être, Dipesh Chakrabarty, dans son livre provincialiser l'Europe sur la pensée postcoloniale avec une formule bon, qui n'est pas exactement la même, mais qui veut dire exactement la même chose. À la fois, voilà, comment utiliser catégorie européenne du point de vue indien, c'est à la fois ces catégories sont à la fois nécessaires et inadéquates. Enfin, nécessaires parce qu'elles le sont devenues, pas parce qu'elles le sont en soi, mais parce qu'il y a... Deuxième série de remarques sur la reproduction. Alors, je ne reviens pas sur les passionnantes analyses que tu proposes de la grève générale féministe, du féminisme marxiste de rupture en Italie et à l'échelle internationale. De la reproduction, tu le montres très bien, comme condition de possibilité de la production. Ou encore du sens véritable, et là j'ai vraiment découvert, j'avais jamais réfléchi à ça, à vrai dire, de la revendication, un salaire pour le travail ménager, comme refus du salaire. Bon, j'ai trouvé ça formidable, c'est d'ailleurs sûrement l'exposition la plus synthétique de ces débats que j'ai pu lire jusqu'à présent. Et j'ai particulièrement apprécié, c'est autre chose, les développements sur le continuum théorisé par Silvia Federici, entre autres. Continuum entre exploitation du travail reproductif des femmes et exploitation des colonies et périphéries du monde capitaliste, qui renvoie à la période esclavagiste. Alors, je me demandais si cette articulation entre travail des femmes et travail des esclaves noirs ne trouverait pas un équivalent ou une sorte de traduction contemporaine dans la relation entre ce que tu appelles à la suite de Judith Revel le devenir femme du travail et Skachin-Bembe, que tu cites pas mais que sur ce point-là, mais Skachin-Bembe, dans Critique de la raison nègre, à désigner comme un devenir nègre du monde. Il y aura un sous-doute, un dialogue, une sorte de dialectique à établir entre ces deux devenirs. Peut-être, d'ailleurs, peut-être l'a-t-il déjà été. Auquel cas, voilà. Je vous prie d'excuser mon ignorance, mais entre le devenir femme du travail et le devenir nègre du monde, il y a une sorte de schème commun, mais peut-être plus qu'un schème commun. Par ailleurs, et en lien avec tes réflexions sur le devenir femme du travail, tu montres que la délégation, ça aussi c'était une découverte pour moi, ou dans tes mots l'externalisation ou la socialisation du travail reproductif, n'a nullement affecté la division sexuelle du travail. Mais la cause n'en est-elle pas, c'est une question, que cette socialisation, au fond pas moins que l'assignation des femmes aux tâches domestiques à l'intérieur du foyer, que cette socialisation du travail reproductif sous cette forme-là continue de répondre aux impératifs du système capitaliste. Autrement dit, est-ce qu'il pourrait y en aller autrement, d'une socialisation qui serait proprement socialiste, voire communiste de la reproduction? Et je pose cette question car cette socialisation, on pourrait même dire cette communalisation intégrale de la reproduction et des tâches domestiques, et au-delà de la maternité, ça avait été un des principaux chevaux de bataille d'une autrice sur laquelle, comme tu sais, je travaille intensivement en ce moment, qui était la féministe bolchevique Alexandra Kollontai, qui en appelait même à qu'on abolisse l'usage des adjectifs, enfin, qui s'abolissent tout seul, l'usage des adjectifs possessifs pour désigner les enfants. Il n'y avait plus mes enfants, tes enfants, mais nos enfants, là. Les enfants de la grande famille prolétarienne. Bon, voilà. Question très massive et un peu anachronique, vu l'état actuel du monde, mais avec un peu d'intempestivité, est-ce qu'on peut penser encore des formes de socialisation de la reproduction d'un type différent? Troisième série de remarques sur les analyses passionnantes, là encore, que tu consacres aux origines du patriarcat en Amérique latine. Tu mets en balance la thèse de l'invention coloniale intégrale, on pourrait dire du patriarcat, défendue par Maria Lugones, avec celle de la reconfiguration coloniale, j'utilise les termes, d'un patriarcat ancestral. Ça, c'est Lorena Cabnal. Ou encore de l'activation d'un patriarcat, de ce qui était avant la colonisation un patriarcat de basse intensité, avec Rita Segato, ou encore d'une jonction patriarcale avec Julieta Paredes. Tu en conclus logiquement qu'il n'y a pas de consensus, je te cite, consensus sur l'existence ou non du patriarcat dans les sociétés autochtones avant l'invasion occidentale. Alors, je suis curieux de savoir, c'est pas tout l'objet de... mais c'est des choses sur lesquelles je travaille un peu, de savoir s'il y a, au-delà de ces positions, des féministes décoloniales qui défendent l'idée d'un matriarcat ou d'une gynocratie précoloniale. Je dis ça parce que l'hypothèse d'un matriarcat originel, propre, qui aurait été propre au communisme primitif, avait fait, à la suite des thèses de Bachofen et d'Engels, dans les origines de la famille, de la propriété privée et de l'État, l'objet d'un très large investissement au sein des féminismes socialistes au début du XXe siècle. Alors, cette hypothèse du matriarcat originel a depuis été largement critiquée par les anthropologues, les historiens et historiennes de l'Antiquité, et a été communément qualifiée comme étant un mythe. Mais si tant est qu'on s'accorde avec ce jugement, il n'en est que plus intéressant, selon moi, d'analyser comment ce mythe des origines a pu et peut éventuellement encore fonctionner performativement, politiquement ou utopiquement, pour imaginer au futur des sociétés dépatriarcalisées. D'ailleurs, on peut très bien parler de mythe, je crois, du matriarcat, sans dire que c'était une pure fantaisie, puisqu'on peut soutenir, et je recite Alexandra Kollontai, que c'est précisément parce qu'il y a eu un refoulement de cet âge d'or des femmes, parce qu'il y a eu une sorte d'oblitération patriarcale a posteriori, que c'est ça qui a contraint la mémoire effective du matriarcat à emprunter une forme légendaire ou mythique. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire que c'est un mythe, mais dire c'est devenu un mythe, mais ça ne veut pas dire que ça l'a toujours été. Bref, juste c'est pour savoir si les thèses des féminismes décoloniaux latino-américains permettent de relancer ce débat sur le matriarcat, ce que j'essaie de retracer les différentes sources, les différentes réactivations de cette thèse. Quatrième série de remarques, il y a un leitmotiv constant dans ton livre, celui de la nécessité de dénaturaliser la féminité. Je te cite, « L'émancipation des femmes ne peut consister que dans le rejet de tout ce qui renvoie à la nature. » Mais dans le même temps, et c'est en partie l'objet de ton troisième et dernier chapitre, tu montres dans la lignée des écoféminismes et des féminismes communautaires latino-américains que cette émancipation, malgré tout, elle implique de renouer un lien avec une nature que la modernité patriarcale n'a eu de cesse d'assujettir en même temps et de la même manière, au fond, qu'elle assujettissait les femmes. Et tu rappelles que c'est précisément cette condition, plutôt que cette identité commune, fruit d'une histoire plutôt et sûrement pas d'une essence partagée, qui permet de concevoir et de revendiquer ou de reclaim, dans les termes d'Émile H. que tu fais tiens, qui permet de revendiquer un rapport privilégié des femmes à la nature sans tomber, dis-tu, dans le piège de l'essentialisme. Mais j'ai le sentiment malgré tout, et je me trompe peut-être, tu peux corriger, qu'il y a un peu plus que ça chez les féministes décoloniales communautaires, par exemple dans les thèses, pour prendre les plus connues, sur la Pachamama, la Terre Mère. L'impression qu'il y a, au-delà de ça, quand même une sorte de volonté d'assomption des forces de la nature, qui ne se réduit pas simplement à un essentialisme stratégique. Ces textes, me semble-t-il, invitent à ne pas s'en tenir à des positions exclusivement constructivistes sur la question, et de consentir malgré tout à une renaturalisation partielle et une renaturalisation critique des rapports de genre, qui servirait bien sûr non plus à justifier, mais à contrecarrer et à subvertir la naturalisation des femmes. Et une manière de commencer me semble consister, comme tu l'esquisses toi-même, à repenser la reproduction humaine sociale à partir de la reconnaissance de ce que tu appelles les pouvoirs reproductifs de la Terre elle-même. Comme tu le montres très bien aussi, cette conception de la Terre et cette conception du corps-territoire permettent de s'affranchir de la matrice eurocentrique, là je te cite encore, dans laquelle le territoire est appréhendé selon la logique de la propriété juridico-politique. Mais à ce propos, il faut bien remarquer que cette rupture est par là même aussi une rupture avec une conception marxiste de la Terre. Appréhender dans le marxisme classiquement la terre en termes de rapport de conflit et de rapport de propriété, c'est-à-dire en termes d'appropriation, d'expropriation et de réappropriation, selon d'ailleurs une logique qui avait largement nourri les pensées et les luttes anticoloniales pour les indépendances. Je me demande en somme si on ne gagnerait pas, plutôt qu'à opposer les deux logiques, la logique ontologique du rapport à la terre et la logique classique marxiste économico-politique, à comprendre comment elles pourraient aujourd'hui se combiner et se réconcilier. Dernière série de remarques à propos de la temporalité. Alors, cette question de la temporalité, c'est un thème qui affleure à plusieurs moments de ton livre. Tu en appelles ainsi à dénoncer, je cite, « l'existence d'une temporalité coloniale, une conception unique, homogène et linéaire du temps, imposée avec l'invasion coloniale », fin de citation, et tu te réfères à ce que Boaventura de Sousa Santos, on va pas reparler, on pourra parler du cas.
Oui, que j'ai écrit avant.
Ah, voilà, tu as écrit avant. Les...
avant.
Mais on peut en reparler après. A désigné comme une monoculture du temps linéaire. Monoculture du temps linéaire au nom de laquelle a été disqualifié, supprimé, réprimé, tout ce qui ne rentrait pas dans le canon temporel, dis-tu, de la modernité capitaliste occidentale. À ce canon, les pensées décoloniales, féministes incluses, Sylvia Rivera, Kusikanki par exemple, ont ainsi pu opposer, je te cite encore, une vision de l'histoire qui n'est ni linéaire, ni téléologique, et qui se déplace en cycle et en spirale. Comme en témoigne le Pachacuti, si tu veux revenir aussi. Alors je trouve ça tout ça très stimulant, mais il y a quelque chose qui me titille dans ce jugement, un jugement qui est quasiment unanimement partagé dans les pensées postcoloniales et décoloniales. Je suis évidemment d'accord pour dire, comme tu le fais d'ailleurs, qu'il y a une prédominance, mais ce n'est pas la même chose, prédominance des philosophies évolutionnistes dans la modernité occidentale, mais ça ne signifie pas qu'elles aient été exclusives, à mon sens, et qu'on ait affaire, comme le dit Boaventura de Sousa Santos, à une monoculture. On oublie trop facilement qu'il y a eu en Occident même, tout au long de la modernité, des critiques du progrès. Ce n'est pas quelque chose qui vient après, hein, depuis la Révolution française au moins, des critiques du progrès, régulièrement associées d'ailleurs à des conceptions cycliques de l'histoire des sociétés. En tant qu'on aurait affaire à des civilisations marquées par l'ascension et le déclin, la chute et l'effondrement. Et ces conceptions, qu'on peut dire à la limite contre-modernes, mais sûrement pas anti-modernes, malheureusement, ça a été souvent des conceptions profondément conservatrices, réactionnaires, voire pire encore, hein, qu'on ne songe, pour ne prendre qu'un exemple, au livre du philosophe allemand Oswald Spengler, « Le déclin de l'Occident ». Ne pas reconnaître qu'il y a eu aussi ça, c'est prêter le flanc, il me semble, aux critiques malveillantes, les plus sournoises, qui se plaisent à dire que tout ça, la pensée décoloniale et la réaction occidentale, l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est du pareil au même, de l'obscurantisme, de l'antirationalisme primaire et autre chose de ce type. Tout cela pour dire qu'à mes yeux, et je finis là-dessus, on n'a rien à gagner à homogénéiser, il me semble, la pensée occidentale si on veut en opérer la pensée, la critique. Et sûrement, et je dis ça, ne pas homogénéiser la pensée occidentale, non pas pour essayer d'en sauvegarder une partie qui serait supposément innocente, il n'y en a pas, mais parce que je crois que c'est précisément à cause ou en vertu, comme vous voulez, de sa pluralité contradictoire, de sa manière que cette dite pensée occidentale a eu de parvenir à faire coexister les opposés jusque dans les contradictions les plus manifestes, que cette pensée a pu exercer une influence si puissamment insidieuse. C'est-à-dire que c'est une pensée qui est parvenue à, et ce n'était pas donné à n'importe laquelle, il fallait qu'il y ait cette contradiction interne, pour pouvoir subjuguer tout en prétendant convaincre, inclure en excluant, ce qui est une forme typique hein, des philosophies libérales, inclure, exclure à travers des philosophies de l'inclusion, enfin des philosophies des droits de l'homme, si vous voulez, et finalement contribuer à asservir au moment même où elle promettait de libérer les opprimés. Et voilà, c'est un peu loin du propos, mais je voulais finir avec ça. Je te remercie pour cette lecture, encore une fois, et pour cette invitation.
Merci. Merci, merci beaucoup, Mathieu, pour cette lecture si, si précise et avec toutes ces remarques. Je ne sais pas... voilà, je vais partir. Non, je vais partir peut-être dès la fin. Sur la question de la temporalité. Ouais. Non, mais tu as raison. En effet, tu as raison. Moi, c'est la seule chose que j'essayais là, d'éclairer, c'était qu'il s'agissait toujours voilà, de ne pas faire du féminisme, je ne l'ai pas précisé, de la philosophie aussi, un bloc justement monolithique, un bloc homogène, et où, voilà, qui, ça, et c'est, parce que ces discours-là prêtent à être critiqués d'une manière très, très, très immédiate. Et en plus, parce que voilà, dans les cas du féminisme, il n'est pas. Le féminisme occidental aussi, il est nourri des positions différentes, il n'est jamais homogène et jamais monolithique. Mais ce qui m'intéressait aussi mettre en valeur, c'était la possibilité aussi, parce que c'était une question qui peut-être m'éhante depuis des années, que j'arrive pas encore à écrire là-dessus, comment une temporalité, en effet, cyclique et aspirale, nous permet aussi, surtout dans des questions, surtout, voilà, pour les féminismes, pour moi, c'est important de les penser, nous permet de sortir, justement, de cette linéarité, que c'est aussi la linéarité de l'oppression, une linéarité où les femmes, on était toujours, renvoyées à leur état de victime. Et là, voilà, ce que j'ai pu apprendre en lisant et en étudiant, notamment des féministes communautaires et indigènes, c'était des autres possibilités, justement, de décoloniser la temporalité elle-même. Donc, c'est ce qui m'a énormément fascinée dans la lecture de Silvia Rivera Cusicanqui, voilà, les Pachacuti. C'était, voilà, une manière de dire, le temps est cyclique. On n'est pas, il n'existe pas un présent, un futur et, présent, putain, désolé, la fatigue, les passés, mais voilà, le temps est circulaire. Donc ça change tout aussi par rapport à notre vie, à notre position dans le monde, à notre position dans les luttes. Et puis sur les matriarcats, ce que je peux te dire, c'était par rapport à Maria Lugones, par exemple, qui avait beaucoup analysé la présence ou non des sociétés, la possibilité. Il s'agissait pas tant des matriarcats, mais des possibilités des sociétés où il y avait une complémentarité. Il y avait cette complémentarité, surtout dans la gestion de la vie quotidienne, ce qui n'était pas le cas dans la gestion du pouvoir. Là, par contre, voilà, la complémentarité était n'existait pas. Ça n'existait pas. Donc, mais je suis d'accord avec ce que tu dis complètement, que c'était justement cette oblitération, cet refoulement était aussi une opération, encore une fois, une opération patriarcale, qui a fait que ça devient un mythe. Donc, ça devient disqualifié comme possibilité. Et puis, voilà, ça, je pense que cette intempestivité dont tu parles par rapport à Koh Lanta, c'est justement ce qui fait l'importance de ton travail, ce qui m'intéresse dans ces moments, justement, lire et voir ces manières, comment une pensée, voilà, d'une féministe bolchevique peut irriguer, par contre, à des possibilités réelles, des socialisation du travail reproductif. Qu'est-ce que ça va dire, si c'est possible ou pas? À mon avis, il y a des expériences réussies qui vont en tel sens en Amérique latine, mais qui restent des expériences encore, on peut dire, limitées. Voilà. Des projets utopiques qui existent et qui essayent, voilà, d'aller dans cette direction-là. Donc, c'est intéressant aussi de montrer comment elle a pensé, voilà, même, elle est pas intempestive, elle est peut-être à l'avant-garde, elle a anticipé, voilà, des possibilités et voilà. Et puis, j'avais une autre, attends. La question me dit, sur la dénaturalisation de la féminité. Ce qui est intéressant, à mon avis, de la notion des corps-territoires et ce qui, à la fois, c'est une idée force, une méthode de lutte, et que ce qui m'intéressait aussi dans ces concepts. Et l'effet qu'on dénaturalise, en effet, les constructions patriarcales de la féminité. Et les rapports, justement, à la Terre, c'est jamais un rapport d'essentialisation dans le sens où il s'agit d'une expérience vécue. L'expérience avec les territoires, c'est une expérience où les corps et les territoires sont impliqués, justement. On sort d'une idée des... d'une idée des natures telle que la conçoit d'une manière essentialiste, mais là, c'était une expérience vécue. Notre corps, il est violé, volé, autant que les territoires. Donc, c'est là, ça change complètement, tu vois, toute la possibilité aussi des luttes et des créations d'ontologie, des cosmovisions. Ce qui est intéressant aussi comme opération, mais là, j'ai pas une réponse, mais c'est intéressant, justement, et là, je vois aussi une opération véritablement décoloniale, c'est voir comment ces concepts qui est vraiment né comme concept collectif en Amérique latine peut être traduit politiquement dans d'autres contextes comme les nôtres. Qu'est-ce que ça va dire encore territoire si on parle d'un quartier, voilà, des situations très urbaines aussi. Et aussi, mais aussi en Amérique latine même, ces concepts changent. Et on se réfère à des luttes anti-extractivistes, ou sinon, on se réfère par exemple en Argentine notamment, à tout ce qu'il était les féminismes urbains, donc les féminismes ni una menos, les corps-territoires deviennent une possibilité de sortir aussi d'une logique d'appropriation des propriétés du corps pour lutter justement de manière collectif, et là j'arrive à l'accoupamiento. L'accoupamiento, c'est un concept d'une puissance inouïe qui signifie aussi, qui, c'est intraduisible. On a essayé de le traduire comme corps par corps, par exemple Mila Ivanovic a essayé dans les corps par corps. Accoupamiento. Accoupamiento, moi je le sens parce qu'en tant qu'italienne, je ressens une. C'est pas l'incarnation, l'accoupamiento, c'est vraiment une opération. C'est intraduisible, voilà. Et je pense aussi, on a fait un choix avec mon éditeur canadien de laisser accoupamiento et de faire juste une note en disant qu'on essaie de le traduire corps par corps. Mais c'est vraiment l'idée d'une guérison aussi collective qui passe par des corps qui, ensemble, essayent de guérir, de se guérir à travers une mémoire voilà, des ancêtres et aussi des possibilités de réinvention d'une nouvelle possibilité de vivre le monde. Et l'accoupamiento, c'était aussi une manière de traduire ce qui a été la marée féministe, ce qui a été la grève, cette marée, voilà, cette marée immense des corps ensemble, qui peuvent jouir ensemble et lutter ensemble. Et la joie vient du simple fait d'être ensemble, de ce rassemblement. Et ça, c'était inouï, c'était d'une force aussi, d'une force qui, à mon avis, voilà, c'est énorme et qui invite à. Voilà, qui me donne les vertiges à chaque fois que j'analyse et j'y pense. Puis, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes observations, remarques. Ah oui! Ça, je n'avais pas pensé, et je pense que là, il faudrait peut-être écrire un article à deux encore une fois sur la question de devenir femme du travail et de devenir nègre du monde. Là, c'était toute une invitation. C'est tout à fait. Il va du sens. Je pense que voilà, ça, on va dans la direction justement inaugurée par Silvia Federici, mais il y avait aussi, à mon avis, avant elle, il y a tous les travaux de Rosa Luxemburg que tu connais très bien, dont elle parle voilà, de l'importance de tenir ensemble. L'effet que le capitalisme a toujours eu besoin des colonies, des couches non capitalistes pour exploiter, pour extraire de la valeur de nos vies. Donc, les liens, c'est très fort, bien évidemment, entre l'exploitation du travail domestique et l'exploitation du travail migrant dans ces cas-là plus récents et de tout ce qu'en Amérique latine est appelé travail informel. Puis, j'avais. Voilà, je sais pas, peut-être là je m'arrête un peu et si vous avez des questions.
Enfin, j'ai l'impression que justement les luttes en Amérique latine sont très ancrées là-dedans aussi et c'est leur force, j'ai l'impression.
Tout à fait.
C'est de vraiment revendiquer en fait.
Complètement.
Le fait que ça continue en fait. Exploitation des peuples autochtones notamment. Et la deuxième chose, justement, quand on parle de nègres, je voulais juste dire que moi, il y a des personnes en fait qui travaillent sur le racisme qui m'ont dit qu'en fait ça ne s'employait pas en fait le N-word. Alors voilà, je voulais juste le dire. Et la dernière chose, c'est que vous disiez on pourrait parler d'universalisme latéral. En fait, j'ai l'impression que c'est ce que vous disiez quand vous disiez, en fait, on va trouver les communs sans homogénéiser nos luttes. En fait, trouver du commun, c'est trouver des coalitions. Et pour moi, ça parle de ça, en fait, d'un universalisme latéral.
Merci. Merci beaucoup pour vos... Merci beaucoup pour vos remarques. Vous avez tout à fait raison, parce que la question, justement, de lutter à la fois contre un patriarcat qui est à la fois colonial, racial et capitaliste est central dans toutes ces luttes. Et notamment, ce qui m'intéressait toujours mettre en évidence, c'était comment les concepts des colonialités, justement, parce qu'il parle justement des colonialités, des lettres, tous les concepts forgés par les courants décoloniales, mais en les réactivant, justement, en disant la colonialité, c'est les effets non seulement dans les passés, mais les effets dans les présents que on voit justement tous les jours, que on voit dans les projets méga-extractivistes, on voit dans la violation et vol de nos corps et de nos territoires, et on l'a vu avec les femmes mapuches qui ont été récemment libérées en Argentine. Là, j'ai vu récemment Véronica Gago qui me disait voilà la situation, c'est ça, on fait face à ça tous les jours. Et notre manière, c'était justement de comment s'équaliser, comment être ensemble et comment lutter à la fois contre, contre un gouvernement maintenant qui est même banal à définir fasciste parce qu'il est plus que cela, et des projets voilà, qui renvoient cette histoire-là parce que cette histoire-là, c'est notre présent. Et oui, sur la question, moi, voilà, ce qui me dérange dans les conseils d'universel, c'est vrai, c'est qu'il me renvoie à un universel toujours dominant et abstrait. Mais si on les pense d'une manière latérale, voilà, d'une manière, je dirais, ni horizontale ni verticale, peut-être transversale. Utiliser la catégorie de transversalité même pour l'universel. Je ne sais pas, c'est une proposition là que je te lance à réfléchir ensemble. Parce que ça me dérange l'effet qu'il était toujours voilà, perçu comme un refus des différences, justement, comme un refoulement des différences, comme une tentative d'homogénéiser, de renvoyer à qui ? Un homme blanc, hétérosexuel, occidental. Donc tout cela, voilà, dans les théorisations, surtout notamment féministes latino-américaines, je l'ai vu mise en question, je l'ai vu ébranlée. Et ça m'a fascinée, ça m'a donné envie de choisir, d'ancrer tous ces concepts, de les ancrer dans ces luttes, voilà. Justement parce que c'était aussi une invitation à la révolte. Merci.
Je dois répondre sur l'usage du mot nègre. Non, mais qui est emprunté à Chimbembe, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, qui est un intellectuel camerounais, qui a beaucoup écrit sur la condition postcoloniale en Afrique. Nègre ici ne désigne évidemment pas un individu, encore moins une race ou quelque chose, mais désigne une condition, c'est dans ce sens-là qu'il appelle. Et d'ailleurs, on voit bien que dans le devenir femme aussi, il désigne une condition et sûrement pas une naissance, une identité ou autre. C'est la même chose, ça renvoie à des usages du mot nègre qui remonte chez lui, chez Mbembe comme chez d'autres, au moins au mouvement de la négritude dans les années 50, selon une logique de réappropriation du stigmate, en fait, reprendre le terme qui condense le plus de mépris et de haine de la part des Blancs et le revaloriser. Alors, c'est pas dans ces logiques-là chez Mbembe, mais l'usage de ce terme-là, enfin, un usage qui vient de là, et s'inscrit aussi dans cette tradition, avec tout le problème que c'est vrai que dans certains contextes, le mot lui-même en tant que tel ne doit plus être prononcé, ce qui est un autre cas. Voilà, qui est dans certains. Et ça, je ne sais pas ce qu'ils font de quelque chose des travaux d'Achim Mbembe dans ce cas-là, par exemple.
Ouais. Oui. Alors. La question de la joie, voilà, de la joie militante, c'était tel qui m'a semblé voilà, un acte, c'est qui m'a semblé voilà, vécu dans les luttes latino-américaines, à mon avis, voilà, et même là, c'est une proposition de traduction dans nos luttes, c'était l'idée que même l'effet de nous rassembler, l'effet d'organiser des manifestations, d'organiser un collectif, tout cela nous enlève de la tristesse, nous enlève d'une condition de victimisation et d'acceptation passive de l'existante. Et nous permet de trouver la force et les courage ensemble de lutter. Et ça, c'était pour moi, c'était une appréhension récente, mais c'est ce qui m'a permis aussi voilà, de repenser ma militance aussi féministe, de comment, en effet, la traduire dans la pratique, mais d'une manière vraiment très simple. C'était la manière de construire des assemblées. Mais bien évidemment, il y a des conflits. Bien évidemment, on n'est pas d'accord. Il y a des désaccords. Mais comment, à partir de ces désaccords-là, à partir de ces conflits, on a des objectifs en commun. On a l'abolition du patriarcat, qui c'est notre objectif final. Et même imaginer voilà un monde sans patriarcat. Et tout cela, on peut le faire. Voilà, on peut le faire si on sort aussi d'une attitude victimiste et d'une attitude aussi des tristesses. Voilà, donc la joie, à mon avis, c'était une manière. La joie, c'est la seule manière que je vois de réactiver aussi une imaginaire aussi révolutionnaire. Une imaginaire, voilà. Parce que c'est vrai, on a quoi faire avec des défaites, des moments où on est totalement englouti par les réels, on n'a pas, voilà, par des situations, même des conditions matérielles, on doit faire face à des travaux précaires, à des chantages, à des violences terribles, mais Mais l'effet d'être ensemble, voilà, la joie, c'était, la joie revient au fait, Sylvia Federici disait à un moment que même l'effet d'être ensemble dans une cuisine et de préparer une petite tracte, ça peut donner de la joie. Et pour moi, c'était ça, voilà. C'était, et même, voilà, l'effet, même entre, voilà, être avec des autres, être dans une collectif, ça produit de la joie. Voilà. Et la pensée, c'est une pensée collective, on ne produit pas tout seul. Alors, non, d'un point de vue strictement historique, mes recherches partent de 2015. Donc, je fais pas ces liens, mais ce que je peux vous dire, c'était que aussi l'idée d'une constellation des généalogies féministes, ce qui me semble intéressant, c'est justement comment on part jamais de nulle part. Toujours la question de l'histoire, de l'historisation, c'est fondamental dans ma pensée, dans mon travail. Ça va dire, qu'est-ce que signifie? On est toujours situé à un endroit précis, et peut-être là, j'y reviens après aussi à la question des concepts. Qu'est-ce qu'on fait avec ces concepts déjà biaisés, déjà patriarcales? Donc, tout ce qu'on peut dire, et ce qui est intéressant, justement, dans les luttes du passé, que ces luttes-là s'inscrivent, il y a une mémoire des luttes, il y a une toute mémoire des insurrections, des sabotages, dans lesquelles c'est généalogie féministe, insurrectionnelle, contemporaine s'inscrivent. Donc, c'était comme une mémoire qu'on a, comme une mémoire qu'on a sans les savoir, mais qui nous permet d'agir et de continuer. Donc, ça a quoi faire avec, voilà, il y a cet histoire-là qu'il faut toujours faire, et il y a des généalogies toujours possibles. Moi, j'ai choisi une constellation possible, mais il y a 1000 constellations possibles à faire et 1000 allers-retours, justement. Et ça revient aussi au fait, voilà, de réouvrir la temporalité, de faire qu'est-ce qu'on veut avec cette question d'une temporalité qui n'est jamais linéaire. Les concepts. Moi, je dirais toujours qu'on peut pas faire, on peut pas faire une tabula rasa. On peut faire une époquée, si vous voulez, des concepts et de la situation et de la situation aussi, des concepts et des outils conceptuels qu'on a. Mais les défis peut-être les plus importants. Et les plus intéressants aussi, c'est essayer de les déconstruire, de les transformer, de les réactualiser dans l'intérieur, de se saisir de ces disciplines. Surtout la philosophie est une des disciplines les plus misogynes. Et la tâche colossale, c'est vraiment comment on la décolonise. Tout en sachant que même les mots décoloniales, il n'y a pas des mots et des concepts qui nous sauvent. Voilà. Sylvia Rivera Cusicanqui, à un moment donné, elle dit, pour moi, les mots les plus exacts, c'est les mots anticolonial. Il faut être totalement anticolonial, parce que le décolonial peut être déjà réapproprié, récodifié et réabsorbé par l'académie. Ce qui est le cas, donc il y a toujours un rapport entre ce qui se passe dans les mouvements, dans les luttes, et comment ces luttes-là sont retranscrites, retraduites par les mondes académiques, par exemple à la Turquie. Ce qui est intéressant, donc, c'est faire avec, bricoler avec les matériels existants, avec ce qu'on a. Donc, ces outils-là, il faut les déconstruire, il faut l'utiliser, et justement, avec ces outils-là, qu'on peut opérer, voilà, une subversion, une transformation de la discipline. Notamment, pour la philosophie, pour moi, c'était, voilà, c'est le défi d'une vie, encore là, même ma situation, ma situation personnelle, elle explique. Moi, je suis encore précaire à l'université et beaucoup des fois m'étaient reprochés les choix de m'occuper que des femmes. J'ai une formation très classique, je me suis occupée de Hegel, Kant, Foucault, Deleuze, j'ai fait l'histoire de la philosophie pour des années. Mais dès mon doctorat, j'ai pris la décision, mais même avant pour mon mémoire, de m'occuper que des femmes. J'ai travaillé sur Judith Butler, après sur François Scolin, maintenant pour mon HDR même, j'ai dû imposer à un moment donné mes sujets. Je suis pas celle, heureusement, on essaie d'échanger des choses, mais et ça, quoi faire aussi, notamment en France, à mon avis, là on avait discuté à un moment donné avec Mathieu, avec tous les partages disciplinaires, cette idée de la difficulté de faire circuler, de faire dialoguer les disciplines. Voilà, c'était un travail, a été tout un enjeu aussi pour les études postcoloniales, faire dialoguer les études postcoloniales et décoloniales avec la philosophie. L'enjeu, à mon avis, quand on parle d'une philosophie féministe, postcoloniale et décoloniale. Voilà.
Merci à vous. Pour revenir à la question de la critique de l'universalisme,
oui.
Qu'est-ce que vous pensez du concept de pluriversalisme que certains et certaines proposent comme alternative pour ne justement pas garder ce concept qui finit par être assez... assez chargé quand même d'universalisme, et une deuxième question par rapport à ça qu'une amie m'a demandé de vous poser parce qu'elle ne pouvait pas être là. Est-ce que vous savez Bon, après, on peut toujours dire qu'il n'y a pas vraiment d'origine et qu'on peut toujours trouver des origines antérieures, mais est-ce que vous savez si ce concept vient de Françoise Collin, comme vous avez travaillé sur son œuvre? Parce que mon amie me disait qu'elle avait entendu dire que ça viendrait de son article « Pluralité, différence et identité », mais elle n'était pas sûre. Moi, je l'ai plutôt trouvé
Escobar.
À partir de Roland Escobar et puis du numéro de la revue Tumulte aussi, « L'universalisme décolonial » et Fatima Hurtado López. Donc voilà, c'était ma question.
Françoise parlait toujours d'une polyglossie des féminismes, voilà, d'une polyglossie d'un dialogue pluriel. Les concepts de pluriversalisme dont je parle aussi à un moment donné et qui me semble très convaincante d'ailleurs, vient d'Arthur Escobar notamment, donc comme vous l'avez très bien dit. Et moi, ça me semble, voilà, ce qui je trouve fascinant et intéressant dans ces concepts, c'est justement la possibilité de tenir ensemble plusieurs universels, donc plusieurs possibilités aussi, ontologie relationnelle, ce qui permet aussi de pas les réduire, pas les homogénéiser, mais de laisser, voilà, de les laisser dans cette ouverture et possibilités différentes, comme ils se donnent, comme ils se, dans les différents rapports qu'ils ont avec la terre, avec les territoires, avec les ancêtres, avec des cosmologies qui sont différentes pour chaque peuple. Donc, si c'est un concept qui vient tout à fait d'Escobar et que j'utilise et dont je parle à un moment donné, notamment en dialogue avec Julieta Paredes sur la question du féminisme communautaire, sur la possibilité justement d'un corps territoire communauté, mais qui s'inscrit justement dans cette pluralisation et dans cette expérience multitudinaire.
Comme ça va me permettre de te répéter ma première question, ouais. Juste sur pas pluriversalisme, mais sur plurivers, il y a la notion, mais je crois que c'est les Latouriens qui l'ont bien appelé, chose comme ça, qu'on retrouve chez William James au début du XXe siècle, dans le philosophe pragmatiste, enfin, dans un sens qui est différent, mais qui peut-être, enfin, j'avais essayé, mais de manière tellement rapide que, ouais, il faudrait être un peu plus sérieux, pourrait discuter avec les notions du plurivers, la conception décoloniale. Juste sur pluriversaliste, ce que je dis, c'est qu'en fait, on continue quand même à parler d'un plurivers. Enfin, c'est pas la pure multiplicité, en fait. Si on veut être conséquent, il me semble, c'est un plurivers, et ça veut dire un plurivers, comment cette multiplicité d'historicité, d'expériences irréductibles les unes aux autres, mm-hmm. finalement, peuvent néanmoins s'articuler, s'unir, mais c'est aussi toute la question que tu te poses avec les coalitions. Si. C'est qu'en fait, on n'évacue jamais, même en parlant de plurivers, la question, non pas d'une grande unité qui vient tout surplomber, mais des formes d'unification, de rencontre, de... Ça, c'est... Voilà, je pense que c'est pour ça, c'est juste pour dire dans la pensée décoloniale, parfois, quand même, on retient du pluriversaliste la pure multiplicité, mais il y a un problème qui subsiste dans la notion même, en fait, qui n'est pas résolu.
Est-ce qu'il y a encore des questions? Bon, sinon, on peut peut-être lever ce contexte magistral et discuter plus tranquillement. Merci beaucoup, en tout cas, Marc Montanaro, de présenter les théories féministes voyageuses aux éditions Divergence. Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir modéré cette rencontre. Bonne soirée à toutes et à tous.
Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova.
Radio Livre, le jeudi matin de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.